C'est de blessures que nous allons parler aujourd'hui. Il y aurait 5 blessures qui empêchent d'être soi-même selon Lise Bourbeau. L'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation et le rejet. Luigi Minier a vécu à peu près ces 5 blessures à tour de rôle, mais il va nous prouver que l'on peut se construire seul depuis l'enfance et aller de l'avant envers et contre tout à condition d'utiliser la résilience. Bonjour Luigi.
Bonjour Nancy.
Quel plaisir d'être avec toi, merci d'être là. On va faire comme toujours pour ces podcasts, on va parler de ton enfance, ça tombe bien, hein. Toi ça a démarré tout de suite sur les chapeaux de roue. Ton enfance t'a mené très tôt à vivre d'acceptation, raconte-nous ton histoire.
Ma mère au départ ne savait pas trop, n'avait pas trop l'instinct maternel et ça s'est vraiment traduit par le fait qu'elle nous a abandonnés, mon père et moi, dès lors que j'ai eu 6 ans et demi, elle a décidé de nous laisser et l'ambiance était très compliquée car mon père était déjà âgé et travaillait beaucoup. Il se passe beaucoup de traumatismes à ce moment-là. Et en fait, 6 mois plus tard, mon père décide de me mettre en pension pour que lui puisse continuer ses activités professionnelles, pour me protéger de ma mère également, pour que j'ai une éducation soit la plus correcte possible. Sauf que pour moi, là j'ai 7 ans à ce moment-là, je le vis vraiment comme un rejet. Donc c'est hyper complexe. Il vient me chercher de temps en temps le week-end. En fait, les 3 premières semaines, il vient me chercher le week-end et ensuite, il ne vient plus du tout me chercher.
D'accord. Du coup, là, tu te retrouves quelque part démunie. Donc, ta maman t'a abandonné. Ton papa n'assure pas le job non plus. Comment tu te sens à ce moment-là?
Eh bien, en fait, là, t'es traversé par des émotions limite négatives parce que tu es vraiment avec toi-même. Tu es incompris. Tu as 7 ans. Tu ne sais pas vraiment comment mener ta barque. Mon père me plaçait en week-end dans l'appartement de la surveillante de mon établissement qui avait bien la gentillesse de me garder le week-end. En fait, je comprenais pas pourquoi au départ, vraiment. Et puis, je l'ai compris plus tard, mais au départ, j'ai pas compris. J'ai juste, moi, ressenti un profond rejet. Ça n'a pas toujours été très simple. En plus, l'année d'après, il me change d'établissement et il remplace cette surveillante par une famille d'accueil. Et je m'aperçois que cette famille d'accueil n'a que le nom d'accueil et pas vraiment l'envie de me découvrir et de, voilà, il faisait plus ça pour des raisons financières, si tu vois ce que je veux dire.
Tout à fait. Alors, ce qui tout de suite, moi, me frappe, c'est le manque de communication. C'est-à-dire qu'en fait, tu es balancé d'une famille à une autre, tu passes chez ton père, puis tu as une nouvelle surveillante, puis tu n'arrives pas à avoir d'attache et on ne t'explique jamais rien, en fait.
Non.
Tu le traduis comment, ça, toi, enfant?
Ah, c'est difficile à répondre. En tant qu'enfant, je vois beaucoup d'irrégularités, je vois beaucoup d'allées et venues, je vois beaucoup de discussions des uns et des autres qui ne sont pas cohérentes. Donc, les propos de ma mère, c'était pas les mêmes que de mon père. Mais dans cet océan d'incompréhension et de manque cruel d'amour, hein, si tu as bien saisi la chose,
ah oui.
Il y a quand même il y a une belle personne qui arrive à m'accepter tel que je suis. C'est Madeleine, ma grand-mère, la mère de ma mère. Et en fait, grâce à elle, malgré le fait que je la vois très peu souvent, elle vient me chercher au pensionnat le vendredi soir, mais allez, peut-être une fois sur 5 ou une fois sur 6. Et régulièrement, quand elle vient, c'est pas prévu. Alors, c'est ça, la petite facétie. Et en fait, ma grand-mère, si tu veux, pour moi, c'était ma reine d'Angleterre. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'était drôle. Elle était vêtue comme Elisabeth, la reine d'Angleterre, c'est-à-dire avec toujours son petit chapeau, super bien apprêté. Et en fait, pour moi, dès que je la voyais, surtout que c'était une surprise, comme je t'ai dit, franchement, j'étais aux anges. Elle m'écoutait, elle voulait savoir ce que je ressentais, comment j'avançais dans ma scolarité. Bon, je te cache pas que j'étais très turbulent, que j'étais collé souvent les vendredis soirs. Mais là, pour t'expliquer, c'est vrai qu'avec ma grand-mère, il y avait vraiment cette filiation que j'arrivais pas à voir avec ma mère.
Ta grand-mère aimait aussi beaucoup de faire des frites et ça joue beaucoup, hein, ce qu'on fait.
Ah là 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 là. Alors là, oui, tu sors un secret là. Écoute, mamie frite. Ouais.
Voilà, c'était Elisabeth mamie frite et donc elle, c'était ton réconfort. Heureusement qu'elle a été là. C'est ce qui, à mon avis, t'a permis quand même de te construire sur des bonnes bases par après en grandissant, on va dire. Parce que c'est vrai que te retrouver dans une famille d'accueil avec une famille qui préférait s'occuper de leur fille en te laissant toi un peu pour pour compte, ça n'a pas dû être simple. Mais un jour, tu as décidé de te libérer de tes chaînes. Tu as choisi un itinéraire en grandissant qui t'a demandé beaucoup de courage.
Alors oui, effectivement, pour vraiment comprendre le déclic de l'affirmation du jeune Luigi de 13 ans à l'époque. Donc là, ça fait plusieurs années que cette famille d'accueil me prend à la fois pour les vacances estivales, quelques week-ends. Et là, j'ai 13 ans et un dimanche soir, mon père vient me récupérer et je m'écroule en sanglots à côté de lui. Je lui dis, je ne veux plus y aller. Je ne veux plus voir cette famille. Ce n'est pas la mienne.
Face à un papa qui ne te parlait jamais, d'avoir pu faire ça, c'est quand même incroyable. C'est certainement ta grand-mère qui t'a mené à exprimer un petit peu les choses.
Tu as raison. Et donc, dès lors que j'ai ce déclic-là, je ne revois plus cette famille et chemine en moi, en fait, cette volonté de communiquer parce que quand même, pendant 13 ans, tu contemples des choses, tu n'as pas trop le droit à la parole. Donc, au bout d'un moment, tu as envie vraiment d'exploser. Et j'ai cette révélation un an plus tard, à l'âge de 14 ans, avec le Festival de Cannes. Ça, c'est vraiment qui m'a vraiment sauvé parce que, en fait, du coup, je contemplais aussi les gens s'exprimer pleinement, mais à la télévision, et je voyais quelques vedettes, je voyais beaucoup de stars, entre guillemets, petites ou grandes, avoir le sourire jusqu'aux oreilles, être super bien habillées, raconter leurs exploits. Et moi, je me dis, mais il faut que j'aille les voir en vrai. Pourquoi je me serais privé de cette possibilité? J'habitais à 500 mètres de l'hôtel Martinez.
Oui, mais il y a plein de gens qui pourraient avoir envie d'aller à la rencontre des stars et qui en auraient complètement peur. Donc, ça montre déjà une certaine vocation, une envie d'aller à la rencontre des autres et de te sortir de ton isolement.
Exactement, c'est vraiment bien résumé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'avais peut-être, entre guillemets, cette âme d'influenceur ou de leader à l'époque parce que je convainc deux camarades de collège de m'accompagner et je leur dis, on va aller faire des interviews que personne n'a fait. Ni TF1, ni Canal+, on va faire nos interviews. Alors, la première réaction, ils ont rigolé. Et en fait, nous y sommes allés, vraiment avec notre courage et notre culot en bandoulière. Et le rejet était à la porte, je te le cache pas les premières secondes.
Mais toujours quand on crée des nouveaux projets, on a toujours des rejets. J'en ai vécu également pour ce projet, c'est normal.
Exactement. Donc, on est rejeté plusieurs fois de l'hôtel et à la fin de la première journée, on était accepté par les vigiles qui sont devenus nos amis. Le personnel de l'hôtel nous avait à la bonne également. Et en plus, on était aux premières loges pour interviewer tous les stars de ce monde qui prenaient le temps de nous répondre. Et là, pour moi, j'étais waouh, j'étais scotché.
Waouh, et là, tu nous prouves encore qu'il ne faut pas s'arrêter au rejet, il ne faut pas s'arrêter au premier non qui nous décourage. Il faut continuer et persévérer parce que c'est ceux qui continuent qui sont encore là et qui arrivent à aller au bout de leurs rêves. Alors, entre-temps, ta maman, c'est toujours un peu compliqué. Ton papa, tu passes tout ton temps avec lui. Et il y a un moment quand même, tu décides, ce qui n'est pas simple, de dormir dans le métro plutôt que de rester avec lui.
J'ai vécu un an et demi avec mon père. Et là, j'ai compris que mon père, il était colérique, il était alcoolique. Je l'ai compris. Et quand tu es adolescent, eh ben, tu te laisses plus faire. Tu commences à te rebeller. Et voyant que le feu allait s'attiser de plus en plus, je me suis dit, il faut que je prenne du recul. Je ne vais pas quand même dire à mon père qui a plus de 60 ans, « Papa, pars de la maison. » Donc moi, je suis parti, j'ai 17 ans et là, je pars à Paris. Je pars voir un photographe que j'ai rencontré quelques mois plus tôt au festival. Il me dit, tu viendras chez moi, il n'y a pas de souci, t'es le bienvenu. J'arrive chez lui et au bout de 10 jours, en fait, il m'annonce que ce n'est pas vraiment chez lui et il me dit de partir. Que faire? Est-ce que je rejoins le père et tout ce que ça implique ou alors j'affronte la rue? Eh bien, je décide d'affronter la rue, mais petit malin que je suis et peut-être ayant une dignité déjà à cette époque, je décide de ne pas dormir dans la rue, mais dans la ligne 8, comme tu l'as souligné, la ligne 8 qui est une des plus grandes lignes de métro de Paris, où il y avait du bon chauffage parce que nous sommes en plein hiver et j'alternais mes siestes dans le métro parisien et dans ce moment sombre, j'allais quand même chercher la lumière sous les projecteurs des guichets bancaires, à la fois la lumière et le chauffage, pour avoir un toit finalement. Et ça dure quelques semaines.
Donc pour te dépasser personnellement, pour réaliser tes rêves, pour t'accomplir, pour te libérer d'une famille qui ne t'apporte t'apportait pas la sécurité et l'amour dont tu avais besoin, tu as pu tout seul sortir de tes années sombres en choisissant l'insécurité, la pire de tout, puisque tu te retrouves tout seul et en plus sans abri quelque part. Comment tu fais pour te sortir de cela?
Alors, il y a des rencontres aussi insolites. Effectivement, dans ces moments-là, j'ai rencontré des personnes aussi qui galéraient, parce que forcément, tu rencontres toujours les personnes qui te ressemblent. Et honnêtement, franchement, je le dis aujourd'hui, et ça arrive à tout le monde, et des personnes qui m'ont tendu la main, il y en a eu beaucoup. Effectivement, ça m'a permis de pouvoir, traverser ces moments sombres avec un soupçon de lumière et surtout d'humanité, parce que quand tu rencontres d'autres personnes qui t'expliquent aussi ce qu'ils traversent, tu dis que t'es pas le seul. Et en fait, c'est ça qui a fait que moi, ayant 18 ans à ce moment-là, je me dis, il y a eu un éclair encore, et je me dis, allez, continue, il y a quelque chose à faire.
Ton père décède.
Exactement. Mon père, là, décède. C'est ma grand-mère qui me téléphone un matin, il est 7h. Elle me dit que mon père est parti. Alors, je le savais malade. Il avait un cancer qui s'est généralisé après. Et on n'avait plus de communication. C'était plus parlé depuis 2 mois au téléphone. Et là, pour moi, c'est un choc. C'est une violence énorme. Parce que malgré le fait qu'on ait eu des frictions, c'était quand même mon père. C'était mon sauveur. C'est celui qui m'a protégé de beaucoup d'insécurité plus tôt dans l'enfance. Malgré tous les travers qu'il avait, c'était quand même un père protecteur, un peu un père sauveur. Et là, il part. Et pour moi, c'est le début de nouveaux ennuis.
Donc là, tu te retrouves sans ressources. Ton papa n'est plus là. Ta maman, de toute façon, tu ne comptes pas dessus. Tu fais quoi?
Je tombe dans une phase de désespoir total. Incroyable. C'est du découragement. C'est une perte de repères complète. Malgré les petits moments que je peux avoir au téléphone avec ma grand-mère, c'est compliqué parce qu'elle-même, elle a perdu son mari aussi au même moment pratiquement que moi, je perds mon père. Donc, c'est compliqué. Et du coup, moi, étant comme ça isolé, je plonge. Je plonge et jusqu'à un moment où je me retrouve en hôpital psychiatrique. J'ai 19 ans, même pas 19 ans, 18 ans et demi. Et là, je suis vraiment dans un sentiment d'injustice, de colère, de frustration. Je me dis, mais ça sera jamais fini, quoi.
Oui, et là, tu deviens fataliste quelque part. Tu te dis, bon, ben voilà. Et là, tu as le choix. Soit tu es fataliste et tu restes là et tu pourras jamais en sortir, soit tu trouves des ressources et ça prend du temps, ça.
Et je trouve des ressources et je croise toujours quelqu'un qui me dit la bonne parole au bon moment. Et là, en l'occurrence, c'est un infirmier qui me regarde vraiment les yeux dans les yeux et il me dit, tu t'en sortiras, t'iras loin, t'en fais pas, tu vas vraiment y arriver. En fait, il m'a parlé 5 secondes. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça m'a remonté le moral.
Ça a changé ta vie. Le pouvoir des paroles, je tiens à le dire. On a un énorme pouvoir dans nos paroles. Soyons positifs, soyons encourageants, soyons bienveillants les uns avec les autres. Parce que moi aussi, il y a des gens que j'ai croisés sur ma route et c'est ce que j'essaye de faire avec les autres, qui m'ont dit des choses, qui m'ont porté exactement là où je devais être au moment où j'en avais besoin. Cet infirmier, c'est ce que j'appelle nos anges gardiens sur Terre. On en a quelques-uns sur notre route qui arrivent de temps à autre quand on en a besoin. Et ce qui est bien, c'est que ça a fait mouche et ça t'a permis de te reconstruire et tout doucement de t'en sortir.
Exactement, ça m'a permis de voir qu'il y a toujours des belles personnes qui peuvent t'inspirer, même avec une phrase, avec une action. Et en fait, je sors de cet hôpital après presque un mois d'hôpital. Et effectivement, pour ceux qui ont vu Une vie volée avec Angelina Jolie, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et je sors avec un plan qui m'est proposé, qui m'est pas proposé par l'infirmier malheureusement, mais qui m'est proposé par la société. C'est-à-dire, on va te donner une alloc et des médocs. Et en fait, ce plan, je le suis à la lettre jusqu'à l'aube de mes 20 ans. Et j'ai un déclic à ce moment-là. Encore une fois, je me dis, est-ce que tu veux vraiment vivre tes 20 ans et toute ta vingtaine pleinement, ou alors est-ce que tu veux rester avec ces médicaments? Moi, la réponse, elle est vite trouvée. Et je décide de faire un sevrage de ces médicaments et de me reconnecter, encore une fois, la parole, le service. Et ça, c'est grâce au Festival de Cannes, encore une fois, comme quoi le festival me sauve encore. Et je travaille au Palais des Festivals une année, 2, 3, 4. Je travaille 5 ans au Palais. Et entre-temps, je fais autre chose. Mais la première année, pour moi, c'est tellement fou. Je reconnecte avec tout ce qui fait partie de la vie. La joie, la bonne humeur, les rencontres et les stars. Évidemment, les fameuses stars que j'avais délaissées depuis 4-5 ans, elles étaient encore là. Et là, pour moi, c'est une nouvelle vie qui se dessine à ce moment-là.
Magnifique. Alors, comment, quand on a vécu le rejet, l'abandon, je crois qu'on peut parler d'humiliation aussi, comment faire pour changer l'histoire en allant de l'avant malgré toutes ces blessures-là qui restent en nous malgré tout?
Il faut se forcer forcer à sortir de ça. Il n'y a que toi qui peux être responsable de ta propre vie, de tes ambitions, de tes choix. Et je ne te le cache pas, au départ, ça a été compliqué de sortir de ces tunnels qui avaient été tout tracés pour moi. Donc, je force le destin, je vais vers les autres, je vais vers les rencontres et je rencontre des personnes merveilleuses, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, personnellement, professionnellement. Et en fait, de l'âge de 20 à 30 ans, je connecte avec ce qu'on appelle des travaux de service. Donc, je connecte à la parole au travers de toutes mes activités professionnelles, que ce soit en tant que vendeur, hôte d'accueil, que ce soit au Festival de Cannes ou ailleurs. Et j'arrive à l'âge de 28 ans. Et là, encore une fois, il y a une petite voix qui me dit, qui fait toc-toc, Luigi, tu as 28 ans, mais est-ce que tu pourrais pas te rappeler du Luigi du festival encore une fois? Tu es parti dans la course, tu as accompli des choses, certainement, tu as trouvé ton indépendance, tu as trouvé un logement, tu as trouvé une copine, mais est-ce que tu as trouvé un sens à ta vie? Et là, à ce moment-là, à 28 ans, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ces métiers qui sont louables et qui sont certes très intéressants, en tout cas pour moi à l'époque, ou alors est-ce que je vais mettre en pratique ma créativité? Et là, s'ouvre une nouvelle page de ma vie.
Et là, tu crées donc ton agence événementielle. Ce qui est très beau dans ton histoire, c'est qu'on sent bien que dans ta famille, rien ne se disait, il n'y avait aucune communication, ce qui t'a fait souffrir encore plus. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit quand même qu'il faut expliquer les choses à nos enfants. C'est très important pour ne pas qu'ils inventent non plus des histoires qui n'existent pas ou qui ne les concernent pas. Et toi, tu as décidé de tout baser dans ta vie sur la communication pour peut-être encourager d'autres personnes. C'est quand même magnifique.
Et oui, c'est magnifique parce que moi, c'est ce qui me fait lever le matin. C'est mon leitmotiv. Aujourd'hui, communiquer, s'entourer de super personnes dans l'agence que j'ai fondée, l'agence Lyon Média, c'est quelque chose aussi. Ce chemin de l'entrepreneuriat, waouh, quelle claque tu te prends, mais au pluriel, quel isolement tu ressens, quelle solitude tu ressens. Et c'est possible que grâce à la résilience que j'avais déjà enclenchée, je suis arrivé encore à déployer certaines choses parce que la résilience, c'est jamais fini. C'est une histoire de chaque jour.
Oui, c'est la résilience, c'est cette capacité donc à surmonter des chocs traumatiques ou des événements particulièrement difficiles. T'as pas parlé du fait que ta maman, à un moment donné, t'a enlevé et puis que ton père t'a récupéré, mais ça fait aussi partie de tes chocs traumatiques, surtout qu'elle avait un mari qui était pas très net. Et tu as raison de le souligner, la résilience, c'est au jour le jour. C'est un peu de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. On en a parlé avec Ariane Laberge lors d'un podcast. En fait, c'est une manière de se conditionner, de conditionner son esprit à penser positif et ne pas rester dans la souffrance et finalement la dévalorisation de soi, faire exactement l'inverse de notre naturel. C'est ce que tu es occupé à faire, c'est ce que tu fais depuis des années et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu construis alors qu'avant tout était là pour te détruire.
Et c'est tout à fait le titre de ton podcast Un jour une autre histoire. On peut se recréer une histoire, même plusieurs histoires au sein d'une vie. Et je vais te citer un exemple aussi d'un monsieur qui est extraordinaire, qui s'appelle Martin Gray. C'est un homme qui a eu des échecs monumentaux. Il a une partie de sa famille qui a été déportée dans les camps de concentration, gazée, etc. Il a refait sa vie ensuite. Il a perdu sa femme et ses enfants dans un incendie. Et ensuite, le gars, il s'est relevé encore une fois. Il a fait des conférences à travers le monde et il est mort à 90 ans passé. Et quand tu vois aussi ses inspirations, tu te dis que si lui, il a pu, comment il a fait déjà? Où il a été puisé ses ressources? Et j'en viens également à mon cas, parce que quand tu sors de ces traversées du désert, de ces océans d'incompréhension, de ce manque d'amour, que j'ai pu aussi le transmuter, le transformer grâce à Madeleine, que j'ai accompagnée aussi jusqu'à la fin de ses jours, il y a 5 ans de ça.
C'est Mamie Frite Elisabeth.
Mamie Frite Elisabeth, j'ai compris que l'amour inconditionnel existait en faisant ce que j'ai fait pour elle. Et là, j'ai compris que si on était tous vraiment identifiés profondément avec un grand A qui signifie amour, là, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'universalité. Et là, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Et je peux faire la transition avec 2017, qui était un moment aussi un petit peu complexe dans ma vie. Et ce moment, j'ai décidé encore une fois de le transformer en allant au Québec. J'ai passé 2 ans là-bas et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont inspiré. C'est des gens magnifiques aujourd'hui avec qui je suis connecté. Au travers de mon agence, j'ai connecté avec des gens magnifiques et tu en fais partie également, qui ont tous leur histoire, qui sont tous sortis d'embûches monumentales.
On a tous nos problèmes, effectivement.
Voilà. Mais c'est même plus que des problèmes. C'est quand même des chocs émotionnels. émotionnels, des chocs physiques. Quand tu vois que grâce à la volonté, grâce à l'envie de connecter avec des gens qui te ressemblent vraiment et à toi aussi, l'envie de t'en sortir, de te surpasser,
limite, de te transformer.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui compte.
D'où l'importance de ne pas s'isoler. Et c'est ce qu'on a tous tendance à faire quand ça ne va pas, parce qu'on a l'impression que le monde est contre nous. Or, c'est l'inverse. C'est nous-mêmes qui sommes contre nous-mêmes jusqu'au jour où on décide de s'aimer à notre juste valeur et comme on est. Et là, tout d'un coup, on commence à avoir autour de nous des personnes qui nous aiment aussi tel que l'on est et qu'on aime tel qu'ils sont et tel qu'elles sont. Voilà un petit peu le secret, finalement, pour se relever. De tout cela, Luigi ressort une phrase qui est simple, mais qui est efficace et qui dit « Je suis capable ». C'est ta phrase et je l'adore.
Merci, merci. Effectivement, c'est une phrase que je me suis dit souvent parce que quand on ne fait pas, on ne sait pas. Et effectivement, beaucoup de personnes se freinent avant même d'avoir essayé, d'avoir commencé. Et c'est une erreur. Et tu en es l'exemple. Plusieurs personnes en sont l'exemple. Il faut avancer vers ce « je suis capable » qui va peut-être te faire dépasser tellement de peur, tellement de blocages. Et c'est une conférence aussi que je donne qui s'intitule comme ça pour dire qu'en fait, qu'on est tous égaux, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe
d'où on vient,
peu importe où on va. Le principal aussi, et là, il faut se le dire aussi dans les moments qu'on vit là, c'est le moment présent.
Oui, et peu importe aussi ce qu'on fait, ce qui compte, c'est ce que l'on est.
Tout à fait. Je pourrais vraiment terminer aussi avec ces trois phrases que j'aime beaucoup. Présenter son histoire, célébrer ses victoires et partager son savoir.
Magnifique. T'as un autre mantra comme ça qui t'inspire pour l'instant ?
On va dire que c'est plus une devise qu'un mantra. Et je l'adore parce qu'elle fait que j'ai pu faire tellement de choses, que j'ai pu parcourir 30 pays aussi à travers le monde, qu'aujourd'hui, je peux communiquer, je peux coacher des dirigeants sur la prise de parole. Et en fait, c'est « je préfère vivre un rêve que rêver d'une vie ».
C'est vrai. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité.
Réalité.
Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a à perdre ? On ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Alors allons-y, voilà. Fonçons à partir du moment où on fait des choses avec le cœur, avec amour, de manière positive. De toute façon, ça ne peut nous apporter que du bon, nous nourrir et nourrir les autres.
La vie, c'est expérience avec un S. Et effectivement, on l'a parcouru, des expériences parfois négatives, mais aussi souvent positives. On peut se les créer, on peut se réinventer et c'est la plus belle chose qui puisse arriver.
Merci pour ce témoignage.
Merci à toi.
Ne restez surtout pas isolés, je crois que c'est la meilleure des conclusions. Profitez de la technologie pour garder le lien avec votre entourage. Restons en contact les uns avec les autres via les réseaux sociaux et où que vous soyez, sachez que vous n'êtes pas seul. Alors gardez le sourire et surtout, comme l'a si bien dit Michel Hetzel lors du lancement d'Un jour une autre histoire, ayez toujours des objectifs. À la semaine prochaine.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas?